15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Gatinel.
Bonjour.
Alors, avec vous aujourd'hui, on fait le point sur les interventions de la myopie. D'abord, ce type d'intervention, on le fait depuis combien de temps en France et ailleurs, d'ailleurs ?
Alors, dans sa version moderne au laser, depuis maintenant une trentaine d'années.
Ah oui, c'est pas du tout récent. Moi, j'imaginais que vous alliez me dire 4-5 ans, mais non, c'est beaucoup plus vieux que ça.
Non, c'est plus vieux.
D'accord.
C'est plus vieux.
Et avant ça, vous dites version moderne, ça veut dire qu'il y avait une version pas moderne ?
Oui, c'est ça. Il y avait une version plus ancienne, avec une sorte de bistouri miniature qui réalisait des petites incisions. On a abandonné. Le laser a apporté une véritable révolution en chirurgie réfractive au milieu des années 90, donc 25-30 ans.
D'accord. Jimmy ?
Et il y en a beaucoup de ce genre d'intervention en France. Vous, par exemple, vous en faites combien chaque année ?
Personnellement, un peu plus de 1000 par an. Et en France, je pense qu'on décompte à peu près 100 000. C'est l'ordre d'idée d'intervention par an. C'est énorme. Et dans le monde, on estime que plus de 30 millions de patients ont bénéficié de la chirurgie réfractive.
C'est comme ça qu'on appelle la chirurgie de la myopie, la chirurgie réfractive.
Réfractive, d'accord. Pour corriger la réfraction, c'est-à-dire les propriétés optiques de l'œil qui peuvent être parfois donc prises en défaut, la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, etc.
Alors justement, pour bien comprendre, aujourd'hui on parle de myopie, c'est quoi un œil myope pour qu'on comprenne bien de quoi on parle quand même ?
Alors ça dépend à qui on pose la question. Pour un ophtalmologiste, c'est un œil un peu trop long qui
s'allonge à cause de la myopie ?
Alors,
ou il est déjà long au départ.
Il y a plein de raisons pour lesquelles l'œil s'allonge. D'abord, il s'allonge physiologiquement pendant la croissance, mais il s'allonge trop, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il doit s'arrêter de s'allonger, et chez certains patients, l'allongement continue. Et pour un patient, être myope, c'est simplement voir flou au-delà d'une certaine distance.
Jimmy ?
Et pour l'instant, on ne peut pas guérir la myopie tout seul. On est obligé de passer par la chirurgie.
Alors, guérir la myopie au sens stopper la croissance de l'œil, il y a certaines études dans le monde en cours pour évaluer des protocoles différents, mais aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à arriver à atteindre cet objectif. En revanche, on corrige la myopie avec des lunettes, des lentilles et avec la chirurgie réfractive.
On
ne
peut pas être myope un jour et plus myope le lendemain, j'en sais rien, à l'adolescence, avec un bouleversement hormonal ou je ne sais quoi, ça n'arrive pas à les guérisons spontanées, on va dire.
Malheureusement non, parce qu'on ne peut pas rétrécir la longueur de l'œil, malheureusement.
Imaginons, je veux me faire opérer, ce qui n'est pas mon cas, j'ai une parfaite vue, j'ai beaucoup de chance, mais je suis myope. Je viens vous voir et lors de cette première consultation, vous faites quoi ? Vous me regardez les yeux, j'imagine, déjà ?
Oui, déjà.
C'est ça, vous me faites asseoir et qu'est-ce que vous regardez complètement ?
On va regarder les yeux avec nos instruments, donc qui permettent de voir l'œil en gros plan. On va analyser chaque tunique de l'œil, donc de la cornée à l'avant à la rétine, pour s'assurer qu'en dehors de la myopie, il n'y ait pas de maladie associée. Et puis, on va surtout spécifiquement réaliser des examens qui sont destinés à mesurer l'épaisseur de la cornée et ses propriétés de courbure. Pourquoi ? Parce que l'épaisseur de la cornée est un paramètre essentiel. On va sculpter la cornée au laser pendant la chirurgie.
C'est ça le principe de l'intervention, en fait, grosso modo.
Grosso modo, on change la courbure de la cornée, mais on le fait par soustraction de matière. Donc la cornée, une fois l'intervention effectuée, est un peu plus mince. Alors, c'est jamais beaucoup, mais on connaît, nous, les seuils à ne pas franchir en fonction de chaque cornée. On va pouvoir, comme ça, déterminer si on peut corriger toute votre myopie et si vous êtes une bonne candidate à la chirurgie réfractive.
Jimmy ?
Et donc, il y a plusieurs techniques différentes, dont le tronc commun, c'est de sculpter cette cornée.
Comment
est-ce que vous faites pour choisir quelle technique vous allez utiliser ?
Il y en a trois, grosso modo, je crois.
Ah oui, il y a trois techniques. Donc, très brièvement, le laser de surface, où on sculpte la cornée en surface. Le LASIK, où on réalise une petite ouverture superficielle et ensuite on sculpte la cornée dans son épaisseur. Et une troisième technique, le SMILE, où on prédécoupe avec un laser un lenticule dans l'épaisseur de la cornée et on l'extrait par une petite incision. Alors, schématiquement, quand les gens ont des cornées fines et des yeux un petit peu fragiles, on s'oriente plutôt vers les techniques de surface. Quand la cornée a une épaisseur suffisante et que l'œil est sain par ailleurs, on fait volontiers du LASIK ou du SMILE. Ces deux techniques permettent aux patients une récupération plus rapide que le laser surface.
La plus fréquente, celle qui est la plus utilisée, c'est le LASIK.
C'est le LASIK,
ouais,
tout à fait.
C'est aujourd'hui ce qu'on fait le plus. Vous disiez que vous regardiez l'œil, notamment la rétine avec quelques examens, et la cornée. Est-ce qu'il y a des contre-indications vraiment formelles à cette opération ?
Alors, il y a une contre-indication formelle qui s'appelle le kératocone, qui est une affection caractérisée par une dégénérescence biomécanique de la cornée et qui donc peut passer inaperçue chez les patients dans les formes débutantes et que l'on dépiste en faisant cet examen donc, qui s'appelle la topographie cornéenne, l'étude du relief de la cornée et qui nous permet parfois de dépister le kératocone. On n'opère pas les patients qui ont un kératocone avancé, Quand il y a des formes débutantes, on peut éventuellement, dans certains cas, c'est au cas par cas, faire du laser de surface.
Oui. Et ce kératocone, il paraît que, enfin, vous nous avez expliqué que c'était les frotteurs, alors pas les frotteurs dans le métro, non. Mais ceux qui se frottent les yeux qui développent par la suite ce kératocone.
Mais vous m'avez désespéré hors antenne, je vous ai dit que je me frottais les yeux tout le temps à cause des allergies, vous m'avez dit attention, vous
risquez le kératocone. Pris en photo en train de le faire.
Le kératocone.
Oui, le kératocone, effectivement, alors bien sûr, la médecine est un domaine qui évolue en permanence et on a en tout cas la Fondation Rothschild maintenant acquis la conviction que le kératocone était vraiment déclenché par les frottements. C'est peut-être pas uniquement les frottements, mais pour faire simple, si on ne se frotte pas les yeux, de notre point de vue, on a peu de chances d'avoir un kératocone, voire pas du tout. Donc c'est un geste assez machinal, routinier.
Tout le monde fait ça, tout le monde se frotte les yeux.
Les enfants font
surtout constamment. Avec les phalanges, les poings serrés, il faut vraiment expliquer aux enfants que c'est pas bien de faire ça. Parce qu'on a mis en ligne il y a pas longtemps une vidéo sur Internet, qui est accessible sur Facebook, enfin, vous la trouverez facilement. Et on voit en IRM dynamique, c'est-à-dire comme si on faisait un film, mais on voit à l'intérieur de l'orbite, l'œil se déformer. Un volontaire sain est rentré dans l'IRM et s'est frotté les yeux. C'est assez impressionnant et ça passe l'envie de se frotter les yeux aux gens qui visualisent ceci. Donc pour les patients qui viennent se faire opérer, on a souvent d'ailleurs comme question, une fois qu'on a regardé la topographie, est-ce que vous frottez les yeux? Et immanquablement, quand ils ont des cornées un peu irrégulières, oui, je suis allergique, oui, effectivement, je me suis frotté les yeux longtemps. Donc il ne faut pas le faire.
Ouais, vraiment, ça n'a effectivement plus l'envie, mais il n'y a pas même une petite technique pour se les frotter
délicatement. Si on peut se frotter délicatement. Le coin de l'œil. En fait, c'est les paupières qui grattent et les gens utilisent
le globe oculaire. Moi, je ferme les paupières et je mets le doigt dessus délicatement comme ça pour me frotter. Non, c'est pas terrible.
Le mieux, c'est de ne pas toucher ses yeux.
Bon, très bien. Docteur Gatinel, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild à Paris. Alors, je ne vous ai pas demandé tout à l'heure, mais cette opération, est-ce que c'est pour tous les myopes? C'est-à-dire que même un enfant, il peut se faire opérer, un enfant très myope, imaginons. Hein.
Non, c'est... il faut être majeur. Ouais. Et éventuellement, et préférablement que la myopie soit stable.
Ah oui, donc au moins, on laisse passer l'adolescence.
Voilà.
Vous opérez les gens à quel âge en général?
En moyenne, autour de la trentaine, entre 25 et 35 ans.
D'accord. Alors imaginons, ça y est, hein, je suis prête à me faire opérer. Ça se pratique comment? Est-ce qu'il faut aller dans un hôpital? Est-ce que ça se fait en cabinet, cette intervention?
Non, ça ne se fait pas en cabinet. Il faut aller dans un hôpital parce qu'on a besoin d'équipements coûteux que sont les lasers, qui utilisent donc des technologies très complexes. Il faut aller dans des centres donc agréés pour la chirurgie réfractive, donc en centre public ou privé. Et l'intervention aura lieu en 15 minutes. On n'a pas besoin d'être à jeun. Il n'y a pas besoin de voir d'anesthésiste. Il faut simplement faire la consultation comme on l'a expliqué, recevoir les informations, avoir un petit délai de réflexion et ensuite on peut faire l'opération.
Alors j'arrive, vous avez dit qu'il n'y a pas besoin d'anesthésiste, de voir l'anesthésiste, mais comment ça se passe? Vous dites que c'est au bloc quand même, enfin à l'hôpital, donc je me déshabille, je suis en petite chemisette, tout ça juste pour les yeux ou...
Non, on vous donne juste une petite surblouse.
D'accord.
Et puis un petit bonnet pour les cheveux. Ensuite, vous rentrez, on essaie de vous rassurer parce que les patients souvent sont un petit peu impressionnés ou apeurés, c'est normal. Hein. Et les yeux, c'est un peu particulier. Et on a donc ensuite une petite séquence d'événements où le patient est allongé et on lui explique étape par étape. Bien sûr, on met des gouttes pour endormir l'œil.
Quand
ça,
même.
C'est très important.
Ah ouais, ah oui. Ça me faisait peur. J'imaginais avec votre gros bistouri vers mon œil.
Il n'y a pas de bistouri.
Ah, il n'y a pas de bistouri, vous allez nous expliquer, Jimmy.
Et les gens, on est conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit ce laser arriver proche de notre œil.
Quelle horreur.
On sait que c'est parti. Donc on est conscient et on voit ce qui se passe.
Le patient, il voit le laser qui s'approche de son œil. L'œil, il est fonctionnel pendant l'opération?
Alors bon, le laser, déjà, c'est de la lumière. Donc il arrive tellement vite qu'on ne le voit pas.
Ah,
mais
ça va.
Je comprends ce que vous voulez dire. Les instruments, oui, on les voit arriver près de l'œil. Certaines phases se font alors que le patient perçoit juste du gris ou un peu de lumière.
Moi, je voudrais ça, là, quand je devais me faire opérer, qu'on ne voit pas grand-chose. Parce que
c'est très
impressionnant, quand même.
Oui, en fait, les patients voient surtout des lumières vives au-dessus d'eux.
Vous n'avez pas un truc pour les mettre un peu à l'aise,
si,
les patients, quand même?
Si, on peut prendre des petits décontractants, bien évidemment.
Il y en a qui en ont besoin, quand même, j'imagine.
Oui.
C'est vrai qu'à ce moment où on arrive sur la table, parce que je me suis fait opérer de cette
myopie. Il y a quelques années, ouais.
Et on arrive, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait ça? Ma vie était très belle et qu'est-ce qui me prend? Et puis, dès lors qu'on sort, on est très content du résultat. Donc, ça dure, comme vous l'avez dit, très peu de temps. C'est 10 à 15 minutes. Et puis, la douleur, elle est quand même plutôt légère. Elle n'est pas très, très importante.
Oui, et même on peut dire que ce sont des techniques indolores, alors à la fois pendant et après pour le LASIK et le SMILE. Pour la PKR, il y a des douleurs pendant 24 heures, mais ensuite ça passe, on peut les atténuer avec des antalgiques.
Et vous pouvez faire tous les myopes, c'est-à-dire que même les plus gros myopes, ceux qui ne voient rien du tout, les plus sévères, je dirais les plus gros, ça ne veut rien dire, mais les plus sévères myopes, ils peuvent être opérés aussi?
Non, on peut quand même opérer 80% des myopes, en gros, mais au-delà d'une certaine importance de la myopie, on ne peut pas parce que la cornée n'est pas assez épaisse. Donc c'est aussi une fonction de l'épaisseur de la cornée dont on dispose et de la myopie du patient. Mais on peut opérer, pour les cas les plus extrêmes, jusqu'à 10-12 dioptries. Et 80% des myopes sont en deçà de 8 dioptries. Mmh. Donc vous voyez, on peut quand même opérer une majorité de myopes.
Il y a une autre solution pour cela, pour les plus gros myopes, il y a des implants, je crois.
On peut mettre des implants dans les yeux quand les patients sont jeunes et n'ont pas la cataracte. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on a la cataracte...
L'implant, ce n'est pas un œil bionique, c'est quoi c'est, non, cet implant
non, c'est, bah, c'est une lentille corrige les...
Mais qui est permanente, qui reste sur l'œil. Hein, ouais.
Voilà. Et puis quand on a la cataracte aussi, on peut profiter de la chirurgie pour réduire ou corriger complètement sa myopie.
Deux en un, quoi.
Exactement.
Jimmy ?
Et donc, c'est une intervention donc, très compliquée, parce qu'il faut vraiment quelque chose...
C'est minutieux,
un haut niveau,
disons,
voilà,
ouais, c'est
de précision. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous opérez ? Vous incisez, vous on sculpte, on met des coups de laser ? Comment expliquer ?
C'est une chirurgie qui est en fait un peu une des précurseurs en termes de robotisation. On parle beaucoup de robots chirurgicaux. Et moi, je considère que les instruments que j'utilise, donc les lasers, sont des robots. Tout simplement parce qu'ils réalisent des gestes très précis. Hein, c'est comme un peu de l'horlogerie. Hein, on travaille à la même dimension qu'un horloger. Un œil, une montre, c'est un peu pareil. Et on doit faire des choses à l'échelle.
Vous dirigez un robot pendant l'intervention, voilà, vous n'êtes pas sur l'œil du patient.
On préprogramme un robot pour faire certaines, on va dire pour le capot, certains tracés dans la cornée. Mm-hmm. Une fois qu'on les paramètre en fonction des examens préopératoires, on approche le robot de l'œil, on sécurise à l'œil les parties qui doivent être au contact. Et une fois que l'œil est bien sécurisé, bien immobilisé, à ce moment-là, le laser est délivré par un robot. Et ça dure 15-20 secondes.
Et c'est très très minutieux, hein. C'est de l'ordre de quoi comme précision ?
Les précisions, pour creuser la cornée, on est à l'échelle du quart de micron. Alors un micron, c'est un millième de millimètre.
Oui,
vous voyez ?
C'est très 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 minutieux, effectivement.
C'est très très précis, et c'est pour ça que cette chirurgie fonctionne très bien. D'ailleurs, on travaille à la même échelle que la lumière. Une longueur d'onde de lumière, c'est un quart ou un demi millième de millimètre, et on travaille à la même échelle. C'est pour ça que le laser a révolutionné la chirurgie réfractive.
Et qu'est-ce qui se passe si le patient bouge au niveau des yeux tout d'un coup ? Parce qu'à un moment, on nous dit qu'il ne faut plus bouger. Mais si on a l'œil qui, par stress...
On ne contrôle pas toujours.
On ne contrôle pas trop exactement. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, les patients d'abord...
Vous avez dû bouger, non, vous, pendant la vôtre ?
Non, j'étais très attentif parce que j'avais très peur.
Exactement.
Et du coup, j'écoutais précisément les consignes. Mais il peut aussi arriver qu'on bouge l'œil à ce moment-là.
Oui, mais c'est plutôt la première réaction. C'est-à-dire que les gens sont quand même impressionnés. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont pétrifiés. Mais ils n'ont pas tendance à bouger beaucoup. Ils sont bien calés. En plus, tout est ergonomique.
Et si, quand bien même, ils bougeaient alors ?
Quand le laser est délivré, il y a une caméra qui filme en permanence les tirs du laser. Alors, les lasers qui corrigent la myopie, les lasers, on les appelle excimers, sont des lasers qui tirent à 500 tirs par seconde, par exemple. Mais on a des caméras haute fréquence qui filment plus vite que le laser ne tire et qui corrigent en temps réel, éventuellement, les petits mouvements qu'on peut avoir, des petites saccades, des petits mouvements erratiques de l'œil.
On ne bat pas des cils, par exemple, pendant cette intervention ? Donc, vous la bloquez, l'œil.
Les cils sont bloqués, bien sûr.
D'où l'angoisse à ce moment-là. On n'est pas bien.
Voilà. C'est ce qui angoisse le plus les patients, l'écarteur à paupières. Alors que pour nous, c'est un geste banal que de le mettre sur nos patients. Mais
chacun ses hobbies et ses pratiques.
Voilà, l'orange mécanique, les
c'est
patients.
Ça fait exactement penser à ça. L'après, ça se passe comment ? Est-ce que tout de suite, en sortant, je vois bien, ça y est, ou pas ? Bah, Jimmy, il l'a dit tout à l'heure, non ? C'est pas immédiat.
Oui, mais j'ai pris ma voiture pour rentrer.
Mais il ne faut pas le faire, docteur.
Parce que ça, Jimmy, les médecins, c'est ceux qui veulent travailler le plus vite après.
Le moins. Comment les gens, je suis alors après ?
Les gens normaux.
C'est ça, les gens pas médecins.
Oui, alors en fait, on les garde un peu avec nous pendant 10-15 minutes, on leur sert un petit café puis on les contrôle pour leur réexpliquer les consignes qui sont de ne pas frotter ses yeux, bien sûr.
D'accord.
De bien commencer les gouttes le jour même. Et puis, on leur donne donc l'ordonnance des collyres qu'ils achètent à la pharmacie, ils rentrent chez eux, ils se reposent en général, ils font la sieste, avec des petites coques de protection qu'on scotche sur les paupières pour, encore une fois, éviter que l'œil soit touché pendant les premières heures.
Et à partir de quand je peux jeter mes lunettes alors ?
Alors, en LASIK, en SMILE, dès le lendemain, des patients travaillent, Jimmy en est un exemple, et c'est tout à fait possible de retravailler le lendemain après les techniques de LASIK et de SMILE. En PKR, on doit observer un peu plus d'arrêt, donc on va dire on reprend le travail au bout de 3-4 jours.
Bon, ça a l'air pas mal tout ça quand même, c'est assez rapide, on se remet bien. Combien ça coûte cette intervention ? Est-ce que c'est remboursé par l'assurance maladie pour terminer ?
Non, alors elle n'est pas remboursée du tout. Certaines mutuelles en revanche offrent une prise en charge et les coûts sont variables, mais c'est entre 1 000 et 2 000 euros par œil.
Et la mutuelle peut prendre en charge une partie. Pour terminer, une fois que j'ai fini cette intervention, que j'ai récupéré ma vue, ça veut dire que plus jamais je viendrai voir un ophtalmo, je suis tranquille, je ne vous verrai plus jamais. C'est pas que je n'aurai pas envie, mais...
Malheureusement non, pour tout un tas de raisons. D'une part, parce qu'un jour, la presbytie, vous êtes encore jeune, mais après la quarantaine, en général, on a la vision de près qui baisse. Et puis de toute façon, il est toujours conseillé d'aller voir son ophtalmologiste, même quand on n'a pas de problème de vision, pour dépister des maladies comme le glaucome, comme des problèmes rétiniens.
Une fois par an, grosso modo, on continue.
Le fait d'opérer la myopie permet aux gens de vivre sans lunettes, sans lentilles, mais ne les soulage pas des risques liés à la myopie qui imposent une surveillance annuelle chez leur ophtalmologiste.
On continuera plus de lunettes, mais on vient vous voir quand même une fois par an. Merci beaucoup, docteur Gatinel, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur cette intervention de la myopie. Merci encore. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de l'orthorexie. Connaissez-vous ce trouble qui touche presque 3% de la population? Savez-vous ce qui le caractérise? Est-ce si grave d'ailleurs, ce trouble alimentaire? Benjamin Lévesque, qui prend soin de sa ligne, a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Quelque chose lié peut-être, je sais pas, aux os ou quelque chose, un problème osseux. Orthorexie.
Ortho, c'est les, pour moi, c'est les os.
Est-ce que ça a rapport aux oreilles? Est-ce que ça a rapport à la tête quand même ou pas? C'est les sinus? C'est dans le cerveau? Une orthorexie.
Pour moi, c'est les personnes qui font attention à ce qu'elles mangent et pour peut-être pas grossir et voilà.
Ah oui, bah c'est assez d'actualité alors.
Je pense que c'est quelque chose qui est plus féminin.
Une obsession de manger sain pour rester en bonne santé tout d'abord et surtout pour c'est un problème qui est dans la tête et c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à soigner que ça va au-delà d'un régime.
Si on veut manger plus sainement, en quoi c'est mal? Après, il faut pas qu'il y ait des dérives. Avec des carences alimentaires, mais...
C'est bien de manger équilibré, mais il ne faut pas non plus être trop dans l'excès. C'est bien aussi de se faire plaisir, de manger des fois un peu gras, un peu sucré.
Jimmy, vous avez l'air épaté par la qualité du micro-trottoir avec des gens qui finalement sont très au fait de ce
c'est
sujet.
C'est pas mal, car moi je n'avais aucune idée avant il y a 5 minutes, mais très bien, bravo les auditeurs d'Europe 1.
Jimmy, c'est vrai que l'orthorexie c'est moins connu, donc des médecins peut-être, mais plus des gens apparemment, que la boulimie ou l'anorexie. Pouvez-vous quand même nous expliquer, puisque je vous ai préparé 2-3 fiches sur le
oui,
sujet.
Oui, dépenses bêtes, on va appeler ça.
Ce qu'est ce trouble, voilà.
Vous allez voir que l'improvisation est un talent que je n'ai pas toujours, mais en tout cas on va essayer de le faire en sorte que ça marche. Alors c'est un trouble du comportement alimentaire, qui consiste à avoir des patients qui vont se focaliser de façon excessive sur le fait d'avoir une alimentation saine. Ils vont être dans l'hyper-contrôle plus que dans le plaisir. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont être incapables de savourer un plat en famille ou entre amis, car ils n'auront que d'obsession, la valeur énergétique et la qualité du produit, sans pour autant chercher ce sentiment de plaisir et d'alimentation qui peut conduire un trouble du comportement qui se rapproche des personnes qui seraient anorexiques.
Oui, ils ont ce contrôle aussi en permanent du nombre de calories, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Là, ils mangent, souvent, il y a une privation de nourriture chez les anorexiques. Elles mangent de moins en moins, ou ils mangent de moins en moins. Là, c'est vraiment ce souci du manger sain. Alors, en même temps, en ce moment, on l'a tous un peu. Il y a eu plein de scandales sanitaires autour de la nourriture. On s'inquiète des pesticides, on veut manger bio. Donc, on est tous un peu orthorexiques. C'est quoi qui fait la différence entre le je veux manger sain et le pathologique, finalement?
Oui, c'est vrai. Moi, je suis végétarien depuis 10 jours.
J'allais dire que vous l'étiez un petit peu orthorexique.
Voilà. Non, mais depuis 10 jours, je ne mange plus de viande. Voilà, je vais craquer. Voilà, je pense,
il a des lubies alimentaires de temps en temps, le docteur Mohamed.
Mais là, il y a un questionnaire qui permet justement de différencier les personnes qui font attention à leur alimentation de ce comportement pathologique. Déjà, les gens pensent ou planifient leur repas plus de 3 heures par jour. Et ils pensent à leur alimentation. Donc il y a une obsession réelle. Ils ont un sentiment un peu de supériorité par rapport à ceux qui ne suivraient pas cette alimentation.
J'ai l'impression que c'est vous. Non. Il m'essaye de me convaincre
c'est
d'arrêter
vrai que
la viande depuis 6 jours.
Un petit peu. Et d'accord. Ils font ce régime de façon stricte et ils suivent de façon minutieuse avec un sentiment de culpabilité si jamais ils font des écarts. Et parfois, ils vont avoir un sentiment de privation et du coup, essayer de se rattraper en disant « je vais éviter de manger pendant plusieurs jours ». Et souvent, ils s'isolent sur le plan social et parfois ont une obsession quant au fait de compter les calories.
Alors, juste terminer, Jimmy, rapidement, est-ce que c'est très fréquent ou pas?
Non, c'est 3% de la population et c'est plutôt des femmes que des hommes.
D'accord. Et donc, vous êtes un homme, mais vous êtes quand même concerné, je pense, un tout petit peu. Une légère orthorexie, juste, ça se soigne quand même.
Oui, alors il n'y a pas de prise en charge qui est clairement codifiée, car finalement, ce n'est pas une pathologie
encore
qui est
tout à fait reconnue.
Très reconnue. On sait que des thérapies cognitivo-comportementales peuvent être la solution.
Comme un peu toutes les phobies,
exactement. Donc, il faut un soutien psychologique et ne pas hésiter à consulter si jamais on en souffre.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Léonard Anthony.
Bonjour Mélanie.
On a beaucoup parlé de la fatigue en général lors de nos précédentes émissions. Vous êtes déjà venu au moins 2 fois sur ce plateau, si
oui,
je ne me trompe pas.
Grand plaisir.
C'est ça, et c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Alors cette fois-ci, on va parler de la fatigue lorsqu'on est malade. Ça touche beaucoup de personnes, ça, cette fatigue due à une maladie chronique en général, ou pas toujours d'ailleurs. Mais...
Alors la question est intéressante parce que j'en ai parlé avec plusieurs médecins qui m'ont dit que c'est grosso modo entre 15 et 20% des motifs de consultation.
Ah oui.
Je suis fatigué. Et en effet, c'est un sujet sérieux quand il en vient de notre santé physique ou mentale. C'est que si vous ressentez de manière régulière une fatigue, c'est important d'en parler avec votre médecin traitant parce que ça peut être un signal important d'une maladie grave. On pense en particulier à des cancers. Mais c'est aussi le symptôme de maladies chroniques. Alors des choses extrêmement simples et banales. Je pense à l'asthme. 4 millions de personnes souffrent de l'asthme en France. Et c'est une maladie qui fatigue beaucoup. Mais jusqu'aux maladies rhumatismales,
les douleurs,
cardiaques. Donc, il est important qu'il y ait une prise en charge qui soit faite.
Jimmy ?
Et dans ces cas-là, on parle de quel type de fatigue ? La fatigue plutôt physique liée à la maladie ? Il y a certaines maladies qui fatiguent authentiquement ou une maladie aussi un peu, une fatigue un peu psychique ou mentale ?
Oui, c'est un point clé. Je pense que c'est les deux parce que la première des choses, donc j'évoquais les maladies physiques, mais si vous êtes atteint de dépression, qui est qualifiée comme une maladie, eh bien, il y a une fatigue qui est associée à cela.
C'est une maladie mentale, mais qui fatigue physiquement, c'est ça ?
Qui fatigue physiquement et mentalement.
Les deux.
C'est-à-dire, un des premiers facteurs qu'on note, c'est que les gens n'ont plus goût à vivre, se retrouvent enfermés, se sclérosent dans leurs mouvements. Et c'est ça, peut-être, le symptôme le plus important de la fatigue, c'est qu'on commence
à perdre d'envie.
Voilà, on commence à avoir une perte d'envie, on perd toute notion de mouvement. On arrête de vivre. Et ça, c'est un sujet important.
Et parfois, devoir penser à ses médicaments, de les prendre tous les jours, parce que quand on a une maladie chronique, ça peut être ça aussi. Ça aussi, c'est fatigant de se dire « Oh, je pars en vacances, il faut que je prévoie de passer à la pharmacie. » Ça, c'est des choses fatigantes.
Ah, ben alors là, vous mettez le doigt sur une étude qui a regardé ça de près. On estime que les malades ont une fatigue associée, donc on va parler de fatigue dérivée associée, liée au traitement, aussi à l'ensemble des soins. Quand on a des problèmes de dos, il faut aller voir le kiné. Il faut continuer à aller voir des spécialistes. On fait des IRM à répétition. Donc tout le parcours de soins est épuisant.
Léonard Anthony, dans votre livre, vous dites que lorsqu'on est atteint par une maladie, de plus quand elle est chronique hein, en général, même si elle est que physique, elle attaque vraiment la pensée. Comment elle s'y prend ? Est-ce que c'est parce que, par exemple, elle peut commencer par nous empêcher de dormir ? Ça, on peut comprendre que ça fatigue.
Oui, pour être très clair, moi j'ai eu, comme je le disais dans mon livre, je suis atteint d'une maladie chronique inflammatoire. Et cette nuit, j'ai pas pu dormir à cause de la douleur. Pratiquement, j'ai dû dormir une heure et demie. Donc je vous raconterai après
vous
comment j'ai
fatigué,
fait.
Vous êtes fatigué, j'imagine, non même
pas trop,
vous n'avez pas l'air
pas trop,
content.
Non, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. C'est parce que naturellement, quand on ne dort pas, on est fatigué. Mais il y a des choses qu'on peut faire.
Vous nous direz ça après, effectivement.
Et le point qui est associé à ça, et pour vous dire les choses avec beaucoup de sincérité, c'est à une époque de ma vie, pendant longtemps, je ne savais pas quelle était cette maladie-là, on s'épuise littéralement à vouloir aller mieux. Et ça, c'est un sujet de fond, c'est qu'on veut tous retrouver notre vie d'avant, quand on avait 25 ans et qu'on ne souffrait pas. Et quand la maladie chronique s'installe et qu'on voit qu'en réalité, elle ne part pas, alors des fois on sait pourquoi, des fois on ne sait pas pourquoi. La médecine nous aide à explorer, mais ne fait pas toujours des miracles. Eh bien, il y a une sensation qui est terrible, qui est celle de s'éroder, un peu comme la roche, vous voyez, qui est attaquée par la mer et l'océan, on finit par s'éroder. Et pour moi, les choses ont basculé un jour, alors je sais que ça va paraître un peu fou et peut-être difficile à entendre pour certaines personnes, les choses ont basculé le jour où j'ai décidé de ne plus aller mieux.
Ah bon ?
J'ai compris que je ne guérirais pas, mais que je pouvais, un, être soulagé par un certain nombre de traitements.
Mmh.
Certains autres traitements, j'ai discuté avec l'équipe médicale qui m'a pris en charge, et on a eu le point de se dire... Ce n'est pas forcément nécessaire de le mettre en place aujourd'hui parce qu'on analyse le bénéfice poids et les traitements engendraient de la fatigue supplémentaire. Donc, il a fallu réfléchir et travailler sur ça, ce qui m'a emmené à mon propre engagement dans le cadre de la maladie.
Jimmy ?
Parce que, effectivement, moi, je vois des fois des patients qui luttent contre la douleur, qui, du coup, sont angoissés et ça participe à leur fatigue. Et vous dites quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il faut remercier sa maladie quand on a une pathologie chronique ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept parce que ça paraît un peu déroutant.
Je sais, je suis bien conscient. Je vais vous citer une phrase d'un astrophysicien qui est Stephen Hawking qui disait « Il vaudrait mieux que les handicapés se demandent ce qu'il est possible de faire plutôt que de se dire tout ce qu'ils ne peuvent pas se faire. » C'est la même chose pour nous qui souffrons de maladies chroniques. Pendant longtemps, moi je me disais « Voilà, ben, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. » Et un jour, j'ai commencé à écrire ce livre. Mais je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais pas été confronté à cette fatigue-là qui est liée à la maladie. Et c'est là où j'ai commencé à remercier la maladie parce que d'avoir changé mon rapport à la fatigue, j'y ai vu une véritable possibilité. On devient un sujet existentiel, c'est-à-dire de considérer la fatigue comme une disposition et pas comme quelque chose à combattre, a changé ma façon de vivre littéralement, m'a permis de devenir plus juste dans mes actes, dans mes gestes et de revenir à une sincérité. Et c'est là où c'est fondamental, c'est-à-dire que dès lors qu'on ne lutte plus contre la douleur, dès lors qu'on l'intègre dans sa vie, dès lors qu'on dit « bon ben voilà, ben tu fais partie de ma vie », c'est comme ça.
Vous lui parlez à votre douleur, en fait,
oui,
c'est
moi
ça ?
Oui, moi, ça m'arrive régulièrement. Même de lui dire « c'est bon, je t'ai entendu ». Parce qu'il ne faut jamais oublier, la douleur, c'est un signal nerveux.
Donc, vous avez encore mal, parfois, cette nuit, vous avez eu mal, c'est
ben
ce
oui,
que vous dites.
Oui, j'ai eu mal cette nuit, donc là, je sais que ça ne se terminera pas, mais le simple fait, parfois, de dire « eh ben, ça y est, c'est bon, je t'ai entendu ».
Léonard Anthony, nous allons poursuivre cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Léonard Anthony. Il est praticien en hypnose et en autodéveloppement. Alors Léonard Anthony, parfois quand on est malade, dès l'annonce d'une maladie par le médecin, déjà l'annonce elle-même, elle peut être source d'angoisse et donc d'épuisement. Expliquez-nous.
Oui, c'est très juste parce qu'en fait, en étudiant le processus, moi j'ai noté trois types de fatigue associées à la maladie. La première, c'est l'anticipation. Et c'est celle que vous décrivez. Vous êtes chez le médecin, on vous annonce Donc tout d'un coup, vous anticipez la prochaine crise. Ou même, vous commencez, par exemple, vous avez mal au dos, vous commencez à sentir un peu la douleur arriver. La plupart du temps, ça va juste être passager. Vous avez pris une mauvaise position, vous êtes assis depuis trop longtemps, mais vous allez anticiper la crise. Donc vous allez vous épuiser à anticiper cette crise. C'est la première fatigue. La deuxième fatigue, elle est celle qui est liée aux symptômes. Donc là, évidemment, vous avez mal, vous êtes fatigué, vous prenez des traitements. Dans certains cas, les traitements vont vous fatiguer aussi. C'est une réalité. Et la troisième, c'est celle qui suit la fatigue. Vous êtes terrassé, vous avez lutté, vous avez eu mal, vous avez dû tenir, vous avez même continué à bosser avec la douleur. Et donc là, toute cette articulation est une chaîne ininterrompue de fatigue qui se cumule et qui se substitue l'une à l'autre.
Comment vous faites ? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous, cette nuit, par exemple, à cause de votre maladie chronique, vous aviez eu des douleurs qui vous ont empêché de dormir. Vous avez dormi 1h30 cette nuit. Comment vous surmontez ça cette nuit ? Par exemple, vous avez fait quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? De la méditation ? De l'hypnose, par exemple ? Qu'est-ce qui vous a été utile pour soulager votre douleur, par exemple ?
Alors,
parce que là, vous n'avez pas l'air d'avoir mal. Pourtant, vous m'avez dit, non, oui, j'ai mal.
Oui, là, j'ai mal. J'ai mal.
Ça se voit pas du tout.
Mais sur une échelle de 10, je dirais 4. Vous voyez, je ne suis pas comme cette nuit. J'étais monté probablement à 7, 6, ouais. 7 dans la douleur. Je ne suis pas à 10. Là, je vais prendre des médicaments. Quand j'atteins même 8, je n'attends pas d'être dans les... Et si ça perdure, je prends des traitements.
Bien sûr, évidemment.
Mais j'ai utilisé, moi, des techniques qui sont liées à l'auto-hypnose, qui consiste, la première des choses, c'est à ne pas rejeter la douleur ou ne pas suffoquer avec elle. C'est-à-dire de ne pas la laisser vous empêcher de respirer. Donc, je respire à l'intérieur de la douleur. La deuxième chose, c'est que je vais tout de suite prendre conscience que le reste de mon corps va bien. Parce que j'ai pas mal partout. Si vous demandez aux gens, ils ont mal dans des endroits spécifiques. Donc, de se rendre compte, de la remettre dans un contexte. Et le troisième point, et ça s'apprend, j'allais dire, c'est de partager la douleur.
Avec qui ?
Eh bien, moi, pendant toute la nuit, j'ai partagé avec mon matelas.
Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il allait parler de son épouse ou... Non, non.
Oui, alors là, elle serait moins contente, je pense, qu'elle serait moins écoutée. Mais toute l'idée, c'est de se dire, voilà, on peut, justement, par le biais de métaphores et de mettre son imaginaire a une capacité extraordinaire de potentialité qu'on n'explore pas assez.
Qu'est-ce que vous avez dit à votre... Enfin, comment vous avez fait avec votre matelas ? Comment vous avez procédé ?
Eh bien, je me suis dit, il est temps d'être un peu moins égoïste et de t'en remettre un peu. Donc, je reste allongé, je ne me lève pas. Je trouve la position qui est une position antalgique où je vois que ça va un peu mieux. Et à partir de ce moment-là, je laisse la douleur se dissoudre. C'est-à-dire, je n'ai qu'une idée, c'est tout le reste du corps qui va bien. J'en vois. Vous savez, on utilise beaucoup des métaphores de couleurs, par exemple. En hypnose, on va se dire, bah, tiens, si mon reste du corps, la couleur qui me vient, c'est jaune, eh bien, je vais envoyer du jaune dans la couleur rouge, qui est souvent celle associée à la douleur, pour l'envahir. Et l'imaginaire joue un rôle fondamental. Dès lors, eh bien, on laisse le rouge se dissoudre dans l'oreiller. Et ainsi de suite. Moi, la douleur a diminué juste en faisant ce processus-là, en entrant et en étant moins égoïste. Vous voyez, donc je...
Il était gentil avec son matelas. Lui, il avait mal à la fin, il parlait de matelas. Jimmy ?
Est-ce que ça peut être semblable un peu à ce qui est un peu tendance, notamment les exercices de pilates, de yoga ou de méditation ? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la douleur dans la maladie ? Et si oui, dans quelle maladie on pourrait les utiliser ?
Alors, la première chose, c'est que des études ont montré pendant des années à l'hôpital, par exemple, quand des gens avaient des très fortes douleurs, on les immobilisait. Maintenant, on sait que c'est une ânerie, il faut arrêter de faire ça. Donc, la première chose, c'est réintégrer de la bonne fatigue dans votre vie. Il n'y a que très peu de cas, pour en avoir discuté avec beaucoup de rhumatologues, où on dit qu'il ne faut pas bouger. La première chose, c'est remettez-vous en mouvement, bougez, trouvez l'articulation.
C'est pas facile de bouger quand on a le corps qui souffre. Hein.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut trouver la bonne personne pour vous accompagner. Encore une fois, le pilates et le yoga, c'est excellent, mais il faut trouver des bons profs de pilates et de yoga parce que ça peut être aussi source de danger. Moi, j'ai vu des profs de yoga qui mettent des gens sur la tête alors qu'ils ont une cervicalgie, ce qui est quand même une ânerie. Donc, il faut juste dire, bon, bah, je trouve la bonne personne et je réapprends à bouger et j'y vais très progressivement, là aussi. Et c'est aussi d'intégrer dans sa vie quotidienne. Moi, j'ai une pratique du yoga, mais j'ai adapté mes exercices du yoga
à vos douleurs.
Mes douleurs. Et puis, je ne vais pas forcément en faire tous les jours. J'en fais tous les deux jours et j'observe et j'ai trouvé l'ajustement. Mais ça veut dire qu'il faut se renouer avec son corps. Mon corps n'est pas mon ennemi, là aussi. C'est une chose fondamentale qu'il faut intégrer. Mon corps, c'est moi. Donc, de renouer avec son corps, de retrouver un peu de lien, va nous aider à entendre.
Jimmy ?
Est-ce que l'alimentation peut aussi nous aider ou c'est un peu trop tendance et qui ne sert pas à grand-chose ?
Alors, je vais vous citer un grand docteur qui s'appelle le docteur Jimmy Mohamed. J'ai lu un de ses tweets un jour qui disait une chose qui m'a paru claire et importante de rappeler. Il disait, c'est pas la peine de prendre des oxydants. On a tout ce qu'il faut dans le corps pour pouvoir se nettoyer. Eh bien, quand je dis renouer avec son corps, c'est aussi être capable de sentir, et c'est là où l'hypnose, dans la forme écologique à laquelle j'invite les gens à renouer, c'est de se dire, comment est-ce que je sens ce que je suis en train de mettre dans mon corps ? C'est-à-dire, je ne me remplis pas en permanence. Vous voyez, quand on a une maladie inflammatoire, la médecine traditionnelle indienne, qui est la médecine ayurvédique, vous dit, c'est pas la peine de manger énormément de sucre, ça va augmenter. Donc ça, voilà, donc c'est un point important, surveillez votre alimentation, voyez ce qui est sain pour vous, et là, Il y a des tonnes de livres et vos médecins sont là pour vous aider. Ça joue définitivement un rôle.
Pour terminer, est-ce que tous les conseils, notamment de méditation ou d'hypnose que vous venez un petit peu d'aborder avec nous, ça fonctionne vraiment? C'est-à-dire, nous, on a compris qu'avec vous, ça avait l'air de marcher, vous avez l'air tout à fait paisible et pourtant vous souffrez en ce moment. Mais il y a des preuves que, par exemple, on arrive, grâce à ces méthodes-là, par exemple d'hypnose, à baisser la dose de médicaments chez des patients chroniques?
De plus en plus, dans le milieu hospitalier, il y a des cellules maintenant où les médecins pratiquent l'hypnose, notamment dans les centres de la douleur, pour aider les personnes. Je peux vous raconter une dernière histoire, si vous voulez. Il n'y a pas longtemps, je donnais une formation sur hypnose, intuition, perception. Et il y a une des personnes qui était là, qui était psychologue. Et donc, je racontais comment, à une personne, j'ai suggéré de partager sa douleur avec le pied de la table qui était à côté. Et donc, je mettais en scène la situation. Je disais, voilà, vous voyez, cette jambe-là, parce qu'elle avait mal à la jambe. Donc, je disais, donnez un peu de votre douleur à la jambe de la table. Et la personne qui était psychologue était là et elle me disait, moi je l'ai fait pendant ce temps-là, elle ne m'a rien dit, avec la table, pas le pied mais la table, parce qu'elle avait mal au dos. Et ça faisait 3 semaines qu'elle avait mal au dos, le médecin lui avait prescrit de la kiné, etc. La session d'après, elle est venue, et elle nous a raconté à tout le monde, en disant, voilà, ben, moi j'ai fait, alors moi je n'étais pas au courant.
Qu'elle faisait
l'exercice. Ouais. Elle a dit, le lendemain la douleur avait disparu, j'ai arrêté la kiné. Donc, vous voyez, c'est à nouveau, c'est l'imaginaire là qui rentre en ligne de compte. On a un potentiel, c'est vraiment en cours d'étude.
De guérison en nous, quoi, hein, c'est ça.
Voilà, ça n'a pas marché à chaque fois.
De guérison, peut-être pas de guérison, on n'est pas contre les médicaments.
Moi,
on est d'accord.
Je parle de soulagement.
Merci beaucoup, Léonard Anthony, d'être venu sur notre plateau, nous faire du bien en cette période un peu angoissante d'ailleurs, surtout pour les gens qui doivent se battre au quotidien contre une maladie. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, « Et si on apprenait vraiment à se reposer » chez Flammarion. Merci encore. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, fidèle au poste, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ?
Super bien. Et vous, allez-vous bien ?
Oui, parfaitement. Tous Jimmy aussi, toujours en forme. Bon, c'est bien. Alors on continue. On va essayer de répondre aujourd'hui à la question de Marguerite. Je vous la lis tout de suite. Je suis en couple depuis 8 mois avec un nouveau compagnon. Il aimerait que nous fassions l'amour en laissant la lumière allumée, mais je ne veux pas, car je suis complexée par mon corps. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est fréquent dans les couples, enfin ces couples qui se disputent comme ça sur ce sujet, lumière ou noir complet, c'est un vrai sujet dans les couples ?
Oui, parce que effectivement, généralement, la difficulté est plus du côté féminin à accepter la lumière et plus du côté masculin à la souhaiter. Et donc, évidemment, on n'est pas tout le temps dans les périodes de sa vie dans la même tranquillité pour exposer son corps et l'offrir au regard de l'autre. Donc, souvent, effectivement, c'est un sujet. De là à faire de grandes disputes.
Pas non plus. Ouais. Non. Mais pourquoi les hommes, ils sont plus friands, justement, de la lumière ? Alors, ils veulent voir, quoi. Pourquoi c'est souvent les hommes, en tout cas ?
Oui, c'est souvent les hommes parce que dans la construction masculine, le rapport à la sexualité passe par la découverte de son sexe et la possibilité de le voir. Quand pour la femme, voir son sexe est une histoire beaucoup plus compliquée. Donc, elle est plus portée par l'imaginaire de son sexe et elle va envisager la sexualité avec l'autre plutôt portée par l'imaginaire. Donc, faire l'amour dans le noir, indépendamment de cette question qui pose la question de la pudeur personnelle, c'est aussi une façon de pouvoir laisser aller l'imaginaire pour imaginer l'autre, envisager l'autre dans tout ce qui est l'expression de ses propres fantasmes. Alors que pour l'homme qui a eu l'habitude de se construire en regardant son pénis, en mesurant son pénis, en observant toutes les capacités de ce sexe, eh bien il veut voir ce que ce sexe va faire dans cet autre sexe et d'ailleurs observer ce sexe de façon extrêmement fine, de façon presque pornographique.
Jimmy ?
Alors Catherine, je ne vais pas vous demander votre préférence à vous, mais quel conseil vous pouvez donner ? Est-ce qu'on doit faire ça ?
Merci.
Je vous en prie, mais est-ce qu'il faut le faire comment ? Alors, allumer ou éteindre la lumière ?
Moi, je trouve que évidemment, il faut que les deux puissent s'y retrouver. Je pense qu'on peut se dire, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, pourquoi pas ? Mais on peut aussi se dire qu'une lumière toute douce et câlinante que peuvent être
une bougie, une ambiance tamisée, ça peut être sympa aussi. Hein.
Voilà, on n'est pas obligé que ce soit chirurgical. Ce que les hommes...
C'est sûr que si vous avez des néons chez vous, Jimmy, c'est beaucoup moins sympa. Hein.
Non, mais c'est sûr que pour l'éclairage maximum, évidemment, est assez violent, pour les femmes en tout cas, parce qu'évidemment, en plus, il y a des positions où elles s'offrent de façon assez abandonnée. Il ne faut pas demander à une femme de s'abandonner si en même temps, on l'expose au-delà de simplement son corps, on l'expose dans ses propres fantasmes et ses propres pudeurs. L'intérêt de la sexualité, c'est aussi de jouer avec le voile de la pudeur, qu'on découvre légèrement ou qu'on remet, etc. Si on est plein néon... à moins de participer tous les deux de cette espèce de regard pornographique, encore une fois, ce n'est pas une critique. Hein,
c'est du voyeurisme de la part des hommes, cette volonté tout souvent de vouloir laisser la lumière allumée.
Oui, mais ce n'est pas malsain, le voyeurisme, dans ce cadre-là, dans le cadre de la relation de couple, c'est ce qui participe de l'excitation, en effet. Comme l'exhibitionniste de la femme qui arrive, qui se serait préparée, qui aurait mis, je ne sais pas, des bas, c'est un exhibitionnisme aussi, une mise en scène, en quelque sorte, de son corps. Oui, oui. On n'est pas dans le voyeurisme ou l'exhibitionnisme dans le jardin public. On est dans l'histoire de couple et des jeux amoureux, bien évidemment.
Jimmy ?
Mais Marguerite, qui est complexée par la lumière, elle a qu'à tout simplement l'éteindre et dire à son compagnon « Non, je ne veux pas ». Et puis, il n'y a pas de mal à faire l'amour, la lumière éteinte.
Oui, il n'y a aucun mal, au contraire, ça peut donner tout le loisir justement de prendre la mesure du corps de l'autre, de façon de le palper différemment, puisqu'on ne sait pas où il est, il faut qu'on l'appréhende, qu'on anticipe où doit être la jambe, où doit être le bras, etc. Qu'on découvre ses seins en les prenant dans ses bras plutôt que de ses mains plutôt que de simplement les regarder. Donc on peut accompagner beaucoup plus volontiers le corps dès lors que l'obscurité empêche la perception de l'autre. Maintenant, vous le savez aussi, faisant l'amour dans le noir, à moins d'avoir une pièce complètement noire,
oui, c'est jamais
mais la réalité,
complètement noir, hein.
C'est jamais
ouais.
complètement noir. Les yeux s'habituent et finalement on se devine. Donc il n'y a pas besoin de mettre des grands néons. Je crois que c'est souvent une volonté de voir directement et de pas se donner le temps de. Ce qui est intéressant au-delà de la pudeur, c'est de se donner le temps d'appréhender l'autre, de faire marcher notre imaginaire, etc. Et je pense que parfois les hommes se privent de ce chemin-là. Maintenant, une femme a trop de pudeur, elle se prive d'elle-même aussi.
Pour contenter tout le monde, elle pourrait aussi décider de le faire dans le noir, mais avec quelques petites bougies, et expliquer peut-être à son compagnon que finalement, faire l'amour dans la pénombre, ça peut aussi aider à faire appel à d'autres sens. Elle peut lui présenter les choses comme ça, non, peut-être ?
Bien sûr qu'elle peut lui présenter ainsi. Évidemment que toute la difficulté pour elle, c'est qu'elle est trop préoccupée par elle-même. Je pense qu'on a particulièrement besoin de noir quand on est en train de se regarder, quand on est fâché avec son corps, quand on regarde le pli, le bourrelet, le sein qui ne tient pas là où il devrait tenir, alors qu'en fait on est dans un exercice, donc de fait tout le corps est assez malmené. Et donc, il faut faire la paix et effectivement trouver le cas dans lequel ça se fait le plus simplement.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve bien sûr demain pour les meilleurs moments de Sans Rendez-vous. Dans un instant, vous retrouvez Philippe Gougler avec son émission « Et si on partait ?», une émission de voyage au bout du monde, mais aussi en France. On va parler région, patrimoine, gastronomie. Je vous souhaite une très belle émission.